Chapitre 15. Je redressai les bancs renversés, essuyai les sols trempés. J'empilai les plats avant de les ramener à la cuisine. Je m'étais frotté jusqu'au sang dans les vagues avec du sable. J'avais retrouvé le crachat sur le carrelage et l'avais nettoyé aussi. C'était inutile. À chaque mouvement, je sentais l'empreinte des doigts de l'homme. Les loups et les lions étaient revenus en catimini, tels des ombres dans la nuit. Ils s'allongèrent, leur gueule appuyée par terre. Finalement, quand il n'y eut plus rien à nettoyer, je m'assis devant les cendres du foyer. J'avais cessé de trembler. Je restai complètement immobile. Ma chair était comme figée. Ma peau s'étirait par-dessus, telle une atroce chose morte et caoutchouteuse. L'aube, ce moment où les chevaux argentés de la lune retournent dans leurs étables, approchait. Le char de ma tante Sélénée avait été plein toute la nuit, sa lumière éclairant vivement le ciel. À la lueur de son visage éclatant, j'avais traîné ses monstrueuses carcasses jusqu'au bateau, frappé une pierre à feu, puis regardé les flammes bondir. Elle avait dû tout raconter à Hélios à présent. Mon père n'allait pas tarder à apparaître en patriarche outragé de l'insulte faite à sa fille. Mon plafond craquerait sous la pression de ses épaules. « Ma pauvre enfant, ma pauvre fille exilée, je n'aurais jamais dû laisser Zeus t'envoyer ici. » La pièce devint grise, puis jaune. La brise de mer qui s'était levée ne suffisait pas à évacuer l'affreuse odeur de chair brûlée. Mon père ne m'avait jamais parlé ainsi de toute sa vie, je le savais. Il serait tout de même obligé de venir, pensais-je, ne serait-ce que pour me reprocher mes actes. Je n'étais pas Zeus, on ne me laisserait pas abattre 20 hommes en quelques minutes. Je m'adressai tout haut au contour pâle du char de mon père qui amorçait son ascension dans le ciel. « As-tu appris ce que j'ai fait ?» Par terre, les ombres se déplaçaient. La lumière s'insinua jusqu'à mes pieds, toucha l'ourlet de ma robe. Chaque instant s'étirait jusqu'au suivant. Personne ne vint. La véritable surprise était peut-être que ce ne soit pas arrivé plus tôt, me dis-je. Autrefois, mes oncles me lançaient déjà des œillades libidineuses quand je leur versais du vin. Leurs mains s'égaraient sur ma peau. Un pincement par-ci, une caresse par-là, une main glissée sous la manche de ma robe. Ils avaient tous des épouses, et ce n'était pas le mariage qu'ils cherchaient. L'un d'entre eux aurait fini par venir me prendre en payant grassement mon père. Une transaction honorable pour tous. La lumière avait atteint le métier à tisser, dont le parfum de cèdre commençait à embaumer l'air. Le souvenir des mains couvertes de cicatrices de dédale et du plaisir qu'elles m'avaient procuré me fit l'effet d'un tison ardent transperçant mon cerveau. J'enfonçai mes ongles dans mon poignet. Chez nous, il y a des oracles un peu partout. Des autels où les prêtresses respirent la fumée sacrée et divulguent la vérité qu'elles y lisent. Une maxime est gravée au-dessus de leurs portes. « Connais-toi toi-même. » Mais j'avais été étrangère à moi-même, changée en pierre sans pouvoir en nommer la raison. Dédale m'avait un jour raconté une histoire sur les nobles de Crète qui l'engageaient pour agrandir leur logis. Il arrivait avec ses outils, se mettait à abattre les murs, à éventrer les sols. Cependant, dès qu'il trouvait un problème à réparer dessous, ses clients fronçaient les sourcils.
« Ce n'est pas ce qu'on avait convenu !»«
Bien sûr que non, expliquait-il. Ce défaut était caché sous les fondations. Mais regardez, il est là, aussi visible que le nez au milieu de la figure. Vous voyez cette poutre fissurée? Les scarabées qui grignotent le plancher? La façon dont la pierre s'enfonce dans le marais? Ces diagnostics ne faisaient que les mettre davantage en colère.
« Tout allait bien jusqu'à ce que tu déterres tout ça. Nous ne paierons pas. Referme tout. Mets du plâtre par-dessus. Si ça a tenu debout aussi longtemps, ça continuera à tenir. »
Alors il enfouissait le défaut et la saison suivante, la maison s'effondrait. Après quoi, il venait le trouver en réclamant un remboursement. Je le leur ai dit et répété. Dès qu'il y a de la pourriture dans les murs, il n'existe qu'un remède. La meurtrissure violette sur ma gorge commençait à verdir sur les côtés. J'appuyai dessus, sentis la douleur irradier. Démolir, songeai-je. Démolir pour mieux reconstruire. J'ignore pourquoi, ils se mirent à venir. À cause d'une révolution chez les parcs, d'un changement dans les routes maritimes ou commerciales, d'un parfum dans les airs annonçant « il y a des nymphes ici et elles vivent seules ». Les navires affluèrent dans mon port comme si on les tirait avec un filin. Les hommes gagnaient la grève en pataugeant, jetant autour d'eux des coups d'œil satisfaits. De l'eau fraîche, du gibier, du poisson, des fruits.
Et j'ai cru apercevoir la fumée d'un foyer au-dessus des arbres. Il n'y a pas quelqu'un qui chante ?
J'aurais pu jeter un sort d'illusion sur l'île pour les empêcher d'approcher. J'en avais le pouvoir. Recouvrir mes rivages paisibles d'images de rochers escarpés et de tourbillons, de falaises accidentées impossibles à escalader. Ils poursuivraient leur route, et je n'aurais jamais besoin de les revoir, ni eux, ni personne. Non, décidai-je. Il est trop tard pour cela. On a retrouvé ma trace. Qu'ils voient donc qui je suis. Qu'ils apprennent que le monde n'est pas tel qu'ils le croient. Ils gravissaient les chemins, foulaient les dalles du sentier de mon jardin. Ils avaient tous la même histoire pitoyable à raconter. Ils étaient perdus, fatigués, ils n'avaient plus rien à manger. Et ils me seraient tellement reconnaissants de les aider. J'en laissais partir quelques-uns, si peu nombreux que je pouvais les compter sur les doigts d'une main. Ceux-là ne me voyaient pas comme leur dîner. C'étaient des hommes pieux, véritablement perdus. Je les nourrissais, et si l'un d'entre eux était beau, je l'emmenais parfois dans mon lit. Il n'y avait là aucun désir, pas le moindre. C'était une sorte de rage, pareil à un couteau qu'on retourne contre soi-même. Je le faisais pour me prouver que mon corps m'appartenait toujours. Mais aimais-je pour autant la réponse que je trouvais ?
« Partez !»
leur enjoignais-je. Ils s'agenouillaient devant moi sur mes sables jaunes. « Ô déesse, dis-nous au moins ton nom, que nous puissions t'envoyer nos prières en remerciement. » Je ne voulais pas de leurs prières, ni de mon nom dans leur bouche. Je voulais qu'ils s'en aillent, me frotter jusqu'au sang dans les vagues. Je voulais que l'équipage suivant arrive, pour avoir de nouveau l'occasion de voir leur chair se déchirer. Il y avait toujours un chef. Ce n'était pas le plus imposant, et pas nécessairement le capitaine, mais c'était vers lui qu'ils se tournaient à la recherche d'instructions pour exercer leur cruauté. Il avait le regard dur, habité d'une tension larvée. Pareil à un serpent, auraient dit les bardes, à ceci près que je connaissais mieux les serpents à présent. Je préfère 100 fois un bon vieil aspic, qui me pique si je l'ennuie et pas avant. Je ne renvoyais plus mes animaux à leur arrivée. Je les laissais paresser où bon leur semblait, dans le jardin, sous mes tables. Cela me plaisait, que les hommes passent au milieu d'eux en tremblant à la vue de leurs dents et de leur anormale domesticité. Je ne prétendais pas être mortel. J'exhibais mes yeux jaunes et chatoyants à la moindre occasion. Rien de tout cela ne faisait de différence. J'étais seule, j'étais une femme, et c'était tout ce qui comptait. J'étalais mes festins devant eux, les viandes et le fromage, les fruits et le poisson. Je sortais aussi mon plus gros récipient, rempli à ras-bord de vin. Ils avalaient goulûment, attrapant des morceaux de mouton dégoulinant qu'ils engloutissaient tout rond. Ils continuaient sans relâche, trempant leurs lèvres, tachant la table de rouge. Des morceaux d'orge et d'herbes aromatiques restaient collés à leurs lèvres.
« Le bol est vide !» se plaignait-il. « Remplis-le ! Et mets plus de miel cette fois-ci. Ce vin est un peu amer. »«
Bien sûr !» répondais-je. Leur faim apaisée, ils se mettaient à passer la pièce en revue. Je les voyais prendre note des sols en marbre, des plats, du tissu raffiné de mes vêtements. Ils adoptaient un air narquois. Si c'était là ce que j'osais leur montrer, imaginez un peu ce qui devait être caché à l'arrière.
« Maîtresse ?» demandait leur chef. « Ne me dis pas qu'une beauté telle que toi habite seule. »«
Mais si, » confirmai-je, « tout à fait seule. » Il souriait, incapable de dissimuler sa joie. Il n'y avait jamais aucune crainte en lui. Pourquoi aurait-il eu peur ? Il avait déjà noté mentalement qu'aucune cape n'était accrochée près de la porte, aucun arc de chasseur, aucun bâton de berger. Aucun signe de frère ni de père, d'une vengeance potentielle. Si j'avais eu de la valeur pour quiconque, on ne m'aurait pas laissé vivre seul. « Désolé de l'apprendre, compatissait-il. Le banc raclait le sol et il se levait. Les autres l'observaient, les yeux brillants. Ils avaient envie de me voir me figer sur place, trembler et supplier, comme cela n'allait pas tarder. C'était mon moment préféré, quand je les voyais froncer les sourcils en essayant de comprendre pourquoi je n'avais pas peur. Dans leur corps, je sentais mes drogues, pareilles à des ficelles prêtes à être tirées. Je savourais leur confusion, la terreur qui les envahissait. Ensuite seulement, je tirais dessus. Leur dos se courbait, les forçant à se mettre à quatre pattes, le visage gonflé comme ceux des noyés. Ils se débattaient et les bancs se renversaient, éclaboussant le sol de vin. Leurs hurlements se transformaient en glapissements. Je suis certaine que c'était douloureux. Je gardais le chef pour la fin, afin qu'il puisse regarder. Il se décomposait, collé au mur.
« S'il te plaît, aie pitié, aie pitié, aie pitié !»«
Non, disais-je, oh non !» Quand tout était fini, il ne me restait plus qu'à les emmener jusqu'à l'enclos. Je levais mon bâton en bois de frêne et ils se mettaient à courir. Une fois que la clôture s'était refermée sur eux, ils se massaient contre les piquets, leurs yeux porcins encore humides de ce qui leur restait de larmes humaines. Mes nymphes ne disaient mot, même si je les soupçonnais d'espionner parfois à travers une fissure dans la porte.
« Maîtresse Circé, un autre navire !» me prévenait-elle. « Devons-nous rentrer dans nos chambres ?»«
Oui, et sortez le vin avant de partir. » Je passais d'une tâche à l'autre, tissant, travaillant, nourrissant mes cochons, traversant et retraversant l'île. J'avançais le dos bien droit, comme si j'avais un gros bol rempli à ras-bord dans les mains. Le liquide sombre ondulait au gré de mes pas, toujours sur le point de déborder, sans que cela ne se produise jamais. Ce n'était que lorsque je m'arrêtais et que je m'allongeais que je le sentais se mettre à couler. On appelait les nymphes des promises, alors qu'en réalité, ce n'était pas ainsi que le monde nous voyait. Nous étions un interminable festin étalé sur une table, magnifique et destiné à se régénérer sans cesse, et si inapte à nous enfuir. La clôture de ma porcherie était craquelée par l'âge et l'usure. De temps à autre, le bois cédait, et un pourceau s'échappait. Le plus souvent, il se jetait du haut de la falaise. Les mouettes étaient contentes. Elles semblaient accourir de l'autre bout du monde pour se repaître de sa chair dodue. Je restais debout à les regarder arracher le gras et les tendons. Un petit bout de queue rose pendouillait dans un bec comme un asticot. S'il s'était agi d'un homme, je me demande si j'aurais eu pitié de lui. Mais ce n'en était pas un. Lorsque je repassais devant l'enclos, ses camarades me fixaient d'un air suppliant. Ils gémissaient et glapissaient en enfonçant leurs groins dans la terre.
« Nous sommes désolés, nous sommes désolés !»
« Désolé de vous être fait prendre, oui, commentai-je. Désolé d'avoir cru que j'étais faible et de vous être trompé. » Sur mon lit, mes lions appuyaient leur menton sur mon ventre. Je les repoussais. Je me levais, puis me remettais en marche.